Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer. Il est 7h.
Il suffit d'appeler les centres de vaccination en disant bah, « je suis disponible et je suis volontaire s'il reste des doses ce soir ».
Un appel et même désormais un site internet pour éviter de gaspiller des doses de vaccins en fin de journée. Tous les Français, même non prioritaires, peuvent s'y inscrire. C'était il y a 50 ans, le manifeste des 343 salopes pour la légalisation de l'avortement. Quel accès aujourd'hui à l'IVG en temps de crise sanitaire ? Réponse dans un instant. Dans ce journal aussi, l'arrestation d'une jeune radicalisée de 18 ans, ce week-end à Béziers. Les critiques contre la maire écologiste de Poitiers qui baisse les subventions accordées à deux aéroclubs, expliquant que l'aérien ne doit plus faire partie des rêves d'enfants. Et puis, un confinement au château, l'offre d'un propriétaire percheron, télétravail au vert contre menu travaux. Juste après ce journal, l'éclairage éco, Nicolas Barré, suivi du regard international, Jean-Sébastien Soldaini.
La Jordanie débarque sans prévenir sur vos écrans avec une affaire de famille. Le roi Abdallah pense être la cible d'un complot, il met son demi-frère et sa belle-mère aux arrêts.
L'édito sport de Virginie Fulpin.
Mesdames et messieurs, la France qui gagne. Fabio Quartararo et Johan Zarco font résonner la Marseillaise sur leur moto.
Et puis nous serons avec Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h sur Europe 1, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. L'objectif est fixé que tous les adultes qui le souhaitent soient vaccinés avant la fin de l'été. Pour l'instant, un peu moins d'un Français sur cinq a reçu au moins une dose. Parmi ceux-là, certains n'étaient pas prioritaires, comme Fabrice, qui a profité d'un concours de circonstances pour recevoir sa première injection.
En fait, j'ai un ami qui est allé passer des radios parce qu'il est tombé pour son poignet. Et en fait, le médecin lui a dit ah bah, « Pendant que je vous ai sous la main, il nous reste des doses. Est-ce que vous voulez être vacciné ?» Il a 40 ans, il n'avait pas de comorbidité. Enfin, il n'était pas destiné à avoir une dose. Et le médecin lui a dit bah, « Ce soir, il nous reste 4 doses. » Il était 6h moins quart. Et il m'a appelé. Et puis moi, je pouvais être là en 5 minutes. Et voilà, je suis venu avec ma femme et on s'est fait vacciner. 90% du temps, il ne reste pas de dose. Mais s'il en reste, c'est possible. En discutant après avec la médecin, elle m'a expliqué qu'en fait, il suffit d'appeler les centres de vaccination en disant bah, « Je suis disponible et je suis volontaire s'il reste des doses ce soir. »
Il y a les chanceux, donc, comme Fabrice. Il y a les prévoyants qui avaient fait savoir à leur médecin qu'ils étaient disponibles si des doses ne trouvaient pas preneur. Et il y a maintenant aussi un site internet.
Hein. Bonjour Virginie Salmen.
Bonjour.
Ce site, c'est un outil supplémentaire pour améliorer l'accès à la vaccination et surtout pour éviter de jeter des doses.
Oui, ça s'appelle Covid List. Le site a été créé avec deux médecins de l'hôpital Foch de Suresnes. L'idée est toute simple, un listing de volontaires, tous âges confondus, prêts à accourir en fin de journée s'il restait une ou plusieurs doses de vaccin au fond d'un flacon. On peut s'inscrire même à 35 ans sans comorbidité. Leur mantra, c'est « aucune dose perdue ». Il faut renseigner ses noms, prénoms, date de naissance, adresse et numéro de téléphone. Après quelques doutes des internautes sur le traitement des données personnelles, les dirigeants du site assurent que les informations sont bien soumises au RGPD, donc sécurisées. Il n'y a pas d'estimation officielle des doses de vaccins qui ne trouvent pas preneur. Mais un conseiller de Matignon évoquait il y a quelques semaines que 25 à 30% des doses pourraient être perdues pour des problèmes de logistique. Ça représenterait 50 à 60 millions de doses sur les 200 commandées par la France.
Les précisions de Virginie Salmen pour Europe 1. Ce site, c'est donc Covid List, tout attaché, covidlist.com.
Et alors que de nouvelles restrictions sont entrées en vigueur dans toute la France ce week-end, la pression hospitalière ne retombe pas. Plus de 5300 malades désormais placés en réanimation.
L'hôpital qui a dû massivement déprogrammer des opérations pour faire de la place, cette mesure a-t-elle eu des conséquences pour les femmes souhaitant interrompre une grossesse? 50 ans après la publication du manifeste des 343 salopes, 343 femmes ayant avorté illégalement, la crise sanitaire a-t-elle compliqué l'accès à l'IVG? Eh bien la réponse est plutôt non, Anne Le Gall.
Alors, le monde médical s'est adapté pour faire respecter ce droit. Au printemps dernier, en raison des difficultés d'accès aux hôpitaux, le délai autorisé pour une IVG médicamenteuse en ville est passé de 7 à 9 semaines d'aménorrhée. Les téléconsultations se sont multipliées pour informer et délivrer les médicaments nécessaires. Cela a permis d'augmenter de 10% le nombre de femmes pouvant avoir recours à l'interruption de grossesse à domicile. Et pour les deux tiers des femmes devant être prises en charge à l'hôpital, explique le professeur Israël Nizan, gynécologue à Strasbourg, et représentant du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, il y a eu une continuité des soins.
Les IVG ont été considérées par toute la profession
et par le Collège national des gynécologues obstétriciens comme une urgence. Et il y a des activités chirurgicales qui ont été arrêtées, mais pas les IVG. Et j'ai regardé dans l'endroit où je travaille, la natalité a baissé, mais le nombre d'IVG est resté identique.
Il est encore un peu tôt pour avoir le détail des chiffres de 2020, mais a priori, pas de changement non plus dans le profil ou l'âge des femmes ayant eu recours à une interruption de grossesse durant cette crise sanitaire. Les femmes âgées de 20 à 30 ans restent les plus concernées.
Et hier, dans le journal du dimanche, c'est un nouveau manifeste des 343 qui a été publié. 343 femmes, artistes ou responsables politiques qui réclament l'allongement des délais de recours à l'IVG au-delà de 12 semaines. Le gouvernement regarde ça de près, a dit hier son porte-parole.
7h05 sur Europe 1. Le ministre de l'Intérieur a évoqué des menaces graves et concordantes. 5 femmes arrêtées ce week-end à Béziers.
5 femmes de la même famille, mais c'est l'une d'elles qui concentre les soupçons pour un projet d'action violente pour Europe 1. Guillaume Bié.
Pour les enquêteurs de la DGSI, il n'y avait pas une minute à perdre. Leur surveillance sur cette jeune femme de 18 ans leur laissait redouter un passage à l'acte imminent, à l'occasion sans doute des cérémonies religieuses de Pâques. Voilà pourquoi les policiers sont intervenus en pleine nuit pour interpeller 5 femmes vivant sous le même toit, une mère et ses 4 filles, dont celle qui était leur principal objectif. La perquisition menée au domicile a renforcé les doutes des enquêteurs du renseignement. Sur place, ils ont découvert un sabre et surtout des produits ménagers qui, une fois mélangés, peuvent servir à fabriquer de l'explosif et sur lesquels la principale suspecte va devoir s'expliquer. En un mois, c'est la 3e fois que de jeunes radicalisés sont ainsi arrêtés par la DGSI. L'un à Mantes-la-Jolie, 17 ans, l'autre à Marseille, 18 ans, même âge que pour cette affaire en cours à Béziers. 3 dossiers différents, mais dans lesquels les services de renseignement pensent avoir déjoué de potentielles attaques.
Double enquête hier sur de luxueux dîners clandestins organisés à Paris. Enquête administrative de la préfecture de police demandée par le ministère de l'Intérieur et enquête pénale ouverte par le procureur.
Les investigations font suite à un reportage d'M6 dans lequel un organisateur évoquait même la présence de ministres. C'était seulement de l'humour, a-t-il finalement assuré hier soir.
Après le sapin de Noël, après le menu végétarien, après le Tour de France, ce sont les rêves d'enfants de la maire écologiste de Poitiers qui font polémique.
L'aérien, a-t-elle dit la semaine dernière, ne doit plus faire partie des rêves d'enfants. Léonore Monconduit, qui voulait justifier une baisse des subventions à 2 aéroclubs de sa ville, un changement de paradigme assumé qui lui a valu de nombreuses critiques. Pour Europe 1, Caroline Baudry.
Les logos de la ville de Poitiers qui ornaient les petits avions de Jean-Marie Arnault ont été décollés, retournés à la mairie. Décision du président de l'aéroclub du Poitou qui apprend que son enveloppe annuelle de 8000 euros serait réduite de moitié en 2021, supprimée en 2022. L'aérien ne doit plus faire partie des rêves d'enfants, avance Léonore Mauconduit, la maire écolo de la ville. Une position injuste pour le passionné d'aviation et les 500 membres de son club.
La France a toujours été le berceau de l'aviation. C'est un peu vouloir punir tous ces gamins qui ne rêvent que de voler, parce que croyez-moi, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Sur les réseaux sociaux, la polémique enfle. Les propos de la maire sont des élucubrations autoritaires et moribondes, selon le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari. Samedi, la maire de Poitiers répond aux attaques dans une vidéo publiée sur Twitter.
Cette décision, nous avons dû la prendre pour les aéroclubs, nous avons aussi dû la prendre pour d'autres associations, parce que nous devions absolument dégager des fonds. Cette décision, elle est aussi en cohérence avec le projet écologique global que nous portons. C'est une question de priorisation, c'est une question de sobriété. De quoi avons-nous vraiment besoin ?
Les loisirs motorisés doivent pouvoir s'autofinancer, conclut-elle, alors que la survie de l'aéroclub du Poitou n'est pas menacée par la suppression des subventions.
Et Yannick Jadot, de son côté, assurait hier qu'il faut développer d'autres modes de transport et à la fois sauver Air France. Air France, d'ailleurs, au sujet de laquelle Paris et Bruxelles se sont mis d'accord pour débloquer une nouvelle aide à la compagnie.
Et on en reparle dans le journal de 8h tout à l'heure. Aux États-Unis, la deuxième semaine du procès de Derek Chauvin, ce policier blanc accusé d'être responsable de la mort de George Floyd.
Benoît Clerc, vous êtes le correspondant d'Europe 1 Outre-Atlantique. Après des témoignages accablants contre l'accusé, ses avocats espèrent ces prochains jours renverser la situation.
Oui, cette seconde semaine s'annonce être celle de tous les dangers pour l'ex-policier, puisque vont se succéder à la barre, à partir de ce matin, les témoins directs de l'arrestation, ceux qui se trouvaient devant le restaurant et qui ont filmé la scène sous différents angles. Si la défense voit leur présence comme potentiellement dangereuse pour les policiers en intervention, l'accusation remarque au contraire que Derek Chauvin a gardé nonchalamment la main gauche dans la poche de son pantalon pendant qu'il maintenait son genou sur le cou de George Floyd, ne paraissant alors nullement inquiet du comportement des passants. parents. Mais ce sont surtout les experts et médecins légistes que redoutent ces avocats, puisqu'ils ont déjà essuyé de nombreuses critiques la semaine passée, après avoir affirmé que Floyd était mort à cause d'une overdose de médicaments absorbée quelques heures avant le drame. En raison de la crise sanitaire, seul un membre de chaque famille se trouve à l'intérieur du tribunal, mais dehors, la communauté noire suit et commente les débats sur les réseaux sociaux. Et les autorités se préparent à toute éventualité.
Benoît Clair, aux États-Unis pour Europe 1.
La fin de la tolérance ce soir. Désormais, plus question d'oublier son attestation.
Oui, obligatoire pour tout déplacement au-delà de 10 km. Il vous reste donc encore quelques heures de tranquillité pour aller vous isoler au calme, pourquoi pas, au vert. Et exemple, à Manou, dans le Perche, où les propriétaires d'un château se proposent d'accueillir des citadins. Oui, mais en échange de quelques travaux. Reportage de Marion Gauthier.
Il faut rentrer le poulain.
Allez.
À peine arrivé, vous voyez, on se fait déjà exploiter.
Bertrand est assureur. La quarantaine pétillante, comme enivré par l'odeur de paille et de sous-bois, il débarque de Paris, trébuche sur son sac et remonte rapidement l'allée de gravier.
Ça y est, je suis reconnecté. Là, on est dans une étable.
On est dans le concret. Ça fait une coupure par rapport au travail un peu abstrait que de se retrouver pendant des heures devant des tableaux Excel ou devant un ordinateur. À se fatiguer, quoi, en fait.
Quatre tours et une arche de pierre, un mur écroulé, grignoté par le lierre et le bâtiment principal, deux longues rangées de volets blancs. Il faut désherber, planter, mais Bertrand le sait, ce n'est pas la première fois qu'il vient télétravailler chez Olivier.
Voilà, les pots gris qu'on a rempotés ensemble la dernière fois.
C'est un bon souvenir ?
Ah oui, oui, c'était pendant ma pause de télétravail, donc c'est un bon souvenir parce que du coup je travaillais pas.
C'est de quelle heure la pause ?
Mais en vrai, c'était toute l'après-midi.
Grosso modo, l'idée c'était de se dire, qu'est-ce qu'on va faire du gîte ? Quand effectivement on n'a pas de clients pour le gîte. Et on s'est dit, c'est quand même dommage que cette maison, elle ne vive pas. J'estime qu'aujourd'hui, les woofers, c'est l'équivalent d'un ou deux plein temps.
Il en faut du temps pour rénover la bâtisse, enrichir le potager ou dessiner un jardin à la française. Olivier parle de 20 ans de travaux, 20 ans de woofing.
Voilà, les woofers.
Vous woofez. C'est un verbe
donc.
Du premier groupe, woofez, Marion.
Très bonne question, on va le décliner.
C'est aller...
aller aider en échange du gîte et
ce
du
qui se fait beaucoup dans d'autres pays, en Australie notamment. Là, pourquoi pas finalement, confiné dans le Perche, quelques menus
sympa.
Travaux pour rénover le château. Je, pourquoi pas. Peut-être qu'il y a installé un studio de radio. Marion Calais, merci beaucoup. C'était le journal de 7h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Allez, c'est un voyage que nous vous proposons à 7h40 ce matin, entre la tradition chamanique mongole et la science occidentale. L'ethnomusicienne Corinne Sombrin maîtrise la transe des chamans et elle soumet son cerveau à nos laboratoires. Les enseignements sont multiples, la pratique ancestrale qui pourrait soigner dans la psychiatrie moderne notamment. Corinne Sombrin, écrivaine, ethnomusicienne et spécialiste donc du chamanisme, c'est l'invité du tête-à-tête Europe Matin tout à l'heure. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
Et l'économie américaine qui repart très fort, l'emploi est au beau fixe, c'est juste s'il y a encore besoin de plan de relance.
Bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. 7h14 sur Europe 1, l'éclairage éco. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Alors on surnomme cela le boom du vaccin. Aux États-Unis, l'emploi repart très fort et les effets de la crise du Covid seront bientôt effacés.
Oui, d'ailleurs, le Wall Street Journal, la Bible des affaires, note dans un éditorial que le même jour ont été annoncés un nombre record de création d'emplois et puis la fin des restrictions de voyage pour tous les Américains vaccinés. Et on le voit bien, plus la campagne de vaccination avance, plus les Américains évidemment retrouvent une vie normale et l'économie se redresse. Les stigmates de la crise disparaissent. Au mois de mars, l'économie américaine a créé quand même plus de 900 000 emplois et le taux de chômage est revenu à 6%.
Incroyable, 6%. Incroyable à entendre déjà de ce côté de l'Atlantique. Mais en fait, le retour à la normale s'accélère.
Ça va très vite. D'ailleurs, j'invite ceux que ça intéresse à aller faire un tour sur le site de l'Université du Maryland. Elle a mis au point un indice de la distanciation sociale.
Vous avez de drôles de week-end, vous, Nicolas ouais. Barré, sur ben, le ouais, site de l'Université du Maryland.
Et ben, c'est assez passionnant cet indice de la distanciation sociale. Ils ont compilé les données personnelles fournies par Google et par les téléphones portables et on s'aperçoit qu'on est revenu pratiquement au même comportement qu'avant la pandémie. Les gens se déplacent, ils se croisent. Bref, l'économie s'est littéralement remise en mouvement, comme avant, exactement comme avant.
Ah, ça, c'est génial, c'est fascinant. Grâce au téléphone portable, on peut voir que la distanciation sociale se réduit. Alors, au fond, le meilleur plan de soutien de l'économie, c'est le vaccin.
Exactement. Et alors, c'est justement ce que disent les opposants à Joe Biden, qui pensent qu'en fait, ça ne sert plus à rien d'injecter des centaines de milliards d'argent public dans l'économie avec des plans de relance à rallonge. Et vous allez voir, ça va être le débat politique des prochains mois entre ceux qui diront laissez faire l'économie, regardez, vous voyez, ça repart tout seul dès qu'on ouvre tout. Et puis, les chiffres de l'emploi leur donnent actuellement raison. Et puis, en face, des démocrates qui disent il faut dépenser encore plus d'argent public, ce qui veut dire alourdir les taxes sur les entreprises, etc. Si l'économie américaine continue continue d'accélérer, eh bien paradoxalement, vous le voyez, ça ne va pas faire les affaires de Joe Biden. Il aura du mal à justifier de dépenser encore tant d'argent public alors que le chômage sera bientôt retombé au niveau d'avant-crise. Il risque de se retrouver politiquement en difficulté quand l'économie ira beaucoup mieux. L'histoire est ironique.
Drôle de débat, hein, voilà. Vu de ce côté de l'Atlantique en particulier. Merci Nicolas Barré, il est 7h16 sur Europe 1. Le regard international, c'est avec vous ce matin, Jean-Sébastien Soldaini, grand reporter à la rédaction d'Europe 1. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, c'est une affaire de famille qui retient votre attention et ça se passe dans un pays que l'on n'attendait pas du tout dans l'actualité, la Jordanie.
La Jordanie, stable, sûre, propre, fréquentable. Sur le papier, le pays a tout de la Suisse du Moyen-Orient. Le problème, c'est que les cantons n'y sont pas souverains. C'est le roi Abdallah qui l'est et il n'apprécie pas la concurrence, surtout si elle vient de sa famille. Samedi, il a mis une quinzaine de personnes aux arrêts et dans le lot, il y a son demi-frère Hamza, accusé de fomenter un complot. Le palais précise que ses activités pourraient porter atteinte à la stabilité et à la sécurité du royaume. Il faut dire qu'Hamza, la mauvaise, le roi l'a écarté de la succession de trône il y a 16 ans qu'il rumine l'affront. Du coup, depuis quelques mois, il se montrait dans les médias locaux pour critiquer la gestion du pays et dénoncer la corruption. De telles apparitions au royaume hachémite, ça ne se fait pas comme ça, ça ne peut se faire qu'avec le soutien de responsables très haut placés.
Mais Jean-Sébastien, est-ce que ce demi-frère du roi Abdallah était devenu à ce point influent ?
Influent, ça reste à voir. Le populaire, c'est certain. Hamza cultive sa ressemblance avec Hussein, le précédent roi, et il séduit comme ça les nostalgiques. Il s'oppose en tout point à Abdallah, le roi à l'éducation anglo-saxonne, là où le supposé comploteur a grandi, avec des bédouins dont il conserve l'accent. Et ce n'est pas rien, les bédouins en Jordanie. Ce sont leurs tribus qui tiennent une partie des services de renseignement. On comprend mieux l'empressement pour l'assigner à résidence.
Ces soubresauts à Amman, Jean-Sébastien, c'est juste une affaire de famille ou ça va plus loin ?
Ça dépasse largement le codicille testamentaire. Il y a de l'enjeu régional derrière tout ça. La Jordanie semble moins essentielle dans les discussions. Là où elle était un interlocuteur privilégié, elle apparaît plus isolée. On voit notamment les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, la contourner pour s'acoquiner avec Israël. Riyad est d'ailleurs pointé du doigt comme étant aux manettes de ce complot. Pour les Occidentaux, la Jordanie, jusque-là très utile avec son placement stratégique, la France dispose d'une base aérienne là-bas, la Jordanie perd un peu de son intérêt depuis les annonces de désengagement américain. Et c'est peut-être une erreur. Il ne faut pas laisser les autres puissances régionales en faire leur jouet, car ce pays est plutôt neutre. Comme la Suisse, les Jordaniens parlent aux Juifs, aux Arabes, aux Iraniens. Cet îlot de stabilité au Moyen-Orient doit être maintenu, mais avec ce genre de complot, il semble que le fleuve Jourdain a plus de méandres que le lac Léman.
Merci Jean-Sébastien Soldaini, avec nous ce matin pour le regard international, qui a osé nous parler d'une famille royale de tête couronnée sous le regard attentif de Stéphane Bern, qui s'installer juste à côté. Tout s'est
c'est
bien passé.
Passionnant, bravo. Oui, il ne faut pas oublier la mère de Hamza qui est la reine Nour.
C'est ça.
Lisa Alabi, américaine d'origine.
Il suit, hein.
Ah oui, oui, bah je vous laisse. Vous savez ce qu'on va faire ? On va faire un peu de pub et vous allez continuer. Pendant ce temps-là, dans un instant, l'édito sport, Virginie Fulpin. On va parler de moto dans un instant.
On va parler de la France qui gagne, bien sûr.
Et Stéphane Bern, donc, pour notre rendez-vous d'histoire, vous l'avez entendu.
Oui, on va parler chocolat,
ah,
évidemment.
Je enfin suis oui. 7h20 pour qu'on parle de chocolat dans cette matinale. A tout de suite sur Europe 1. 7h21 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un doublé français au Grand Prix de Doha de MotoGP hier soir. Fabio Quartararo, vainqueur devant Johan Zarco, pardon, nouveau leader du championnat du monde. Pour vous, Virginie, les images de ce podium entrent au panthéon du sport français.
Il y a d'abord ce bonheur de l'instant, des sourires communicatifs, une Marseillaise, celle que vous entendez, qu'on surprend à entonner gaiement, une joie partagée entre les deux héros du jour. Ces yeux qui brillent de fierté et d'émotion et ces rires qui mangent le visage et nous font oublier les masques le temps d'un instant. C'est un moment d'apesanteur qu'on a vécu hier soir après une course dingue, où on a vu Fabio Quartararo coincé à la 9e place, avant de le voir remonter irrésistiblement jusqu'aux avant-postes. Il a effacé ses adversaires comme à la parade, de la classe, de la détermination. Et ce soupçon de modestie qui rend le moment encore plus touchant. Est-ce que c'est votre plus belle victoire ? Bon, en même temps, j'en ai pas gagné beaucoup, des grands prix, répond-il dans un grand sourire. Comment voulez-vous résister à ça ? Le pilote nous embarque dans son épopée. À 21 ans, il a déjà gagné l'an dernier en ouverture de la saison et tout s'est emballé. On l'a comparé au mythe de la moto, Valentino Rossi, avant qu'il ne termine l'année 2020 sur une série d'échecs. Un peu lourd à porter tout ça et pourtant là, il est revenu sur le devant de la scène avec une légèreté incroyable, une tendre complicité avec l'autre Français, Johan Zarco, nouveau leader du championnat du monde. Les deux pilotes nous ont offert un bol d'air nécessaire entre la chasse aux
eux et le début d'un nouveau confinement.
Ouais, c'est ça. Il y a le bonheur de l'instant, mais aussi une vraie place dans l'histoire du sport français.
Mais il faut remonter à 1954 pour trouver trace d'un doublé français dans la catégorie reine des motos. Au moment d'un rude hiver français et de l'appel de l'abbé Pierre pour les plus démunis, au moment de la bataille de Dien Bien Phu en Indochine, Fabio Quartararo et Johan Zarco, oui, ils nous font réviser nos cours d'histoire. En sport, on a tendance à utiliser à tort et à travers le qualificatif historique, mais là, clairement, il a toute sa place. Le Grand Prix de Doha va rester dans nos mémoires. En plus, la moto n'est pas forcément le sport le plus populaire en France, si on compare à l'Italie ou l'Espagne, par exemple. Et là, on a deux pilotes qui font résonner la Marseillaise et nous font nous redresser au doux son de la France qui gagne. Ils vont amener beaucoup de gens à s'intéresser à cette discipline, à la découvrir. C'est pas un coup de maître qu'ils ont réalisé hier, c'est un double coup de maître. Alors merci messieurs. Et vivement le prochain Grand Prix.
Merci beaucoup Virginie Fulpin. Je vais être très honnête, je n'étais jamais particulièrement intéressé à la MotoGP. Et effectivement, là, du coup, on a envie de voir. On a envie de regarder.
Évidemment.
On a envie de les suivre. Effectivement.
Et c'est grâce à eux.
Merci Virginie Fulpin. 7h23 sur Europe 1. C'est l'heure de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu. Bonjour Virginie. Bonjour à tous. Lundi de Pâques. Alors bon, je fais attention à ma silhouette. Plutôt que de partir bien en tête à la chasse aux œufs en chocolat, je me suis posé la question. Pourquoi dit-on être chocolat?
Alors, on le disait, en tout cas, ça veut dire être dupé, être trompé, c'est ça?
Oui, exactement. La première explication vient de la boxe, ça va vous plaire, Virginie. En cas de KO ou de knockout, les premiers à tenter de prononcer le mot disaient mocha, puis chocolat. Du coup, quand on prenait un choc, on disait être chocolat. Autre explication, plus convaincante, celle-là, c'est le duo de clowns célèbres de la belle époque, Footit et Chocolat. Footit n'a rien à voir avec Footix, hein, la mascotte du foot. Et Chocolat, c'est le nom de scène de Raphaël.
Tout, il fait vraiment tout, Stéphane, hein, pour vous garder avec nous,
Virginie.
Mais
oui, mais
ça
oui,
marche bien, Footix.
Non, je l'écris que pour Virginie.
Donc Chocolat.
Chocolat, c'est le nom de scène de Raphaël Patodos, originaire de la Havane, issu d'une famille africaine réduite en esclavage. Le sketch le plus efficace mettait en scène Chocolat qui se faisait avoir. Et se rendant compte de la supercherie, il s'exclamait « Oh, je suis Chocolat !» Clin d'œil pas très subtil, il faut l'avouer, à sa couleur de peau. Être chocolat est devenu depuis l'expression pour dire qu'on a été trompé. Et c'est cette formule qui est restée également pour les joueurs de Bonneteau, le jeu où il faut trouver une carte sous un gobelet quand il y en a trois retournées et qu'ils ont été mélangés. Faire le chocolat, c'était faire celui qui faisait croire que le jeu était simple, alors qu'il était en fait le complice de celui qui le présentait. Allez, terminons sur un bon mot qu'on attribue à Judith Viors, journaliste et psychanalyste américaine. La vraie force, c'est de pouvoir casser une barre chocolat en quatre et après de ne manger qu'un seul carré. Je sais que moi, j'en suis totalement incapable.
Moi, ça marche même pas avec la tablette.
Hein, Stéphane, on vous retrouve tout à l'heure à 16h avec Mathieu Noël.
Mais oui, absolument. Aujourd'hui, alors que je... Oui,
on va rester dans le chocolat.
On réunit justement le chocolat, oui, avec d'ailleurs un invité de marque qui est Cyril Lignac. On réunit le conquistador Hernán Cortés, l'écrivain britannique Roald Dahl, qui, comme son héros Charlie, aimait la chocolaterie, et le chef pâtissier, donc Cyril Lignac. Leur point commun, vous l'avez compris, hein, c'est lundi de Pâques. On réunit des fous de chocolat, ça va être chaud cacao. Et je vous assure, ça, c'est pas une phrase raciste.
À tout à l'heure, 16h sur Europe 1. Merci Stéphane Bern, 7h26. Dans un instant, la météo et l'info, à tout de suite. 7h28 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Et avec mes prévisions, j'espère que je ne serai pas marron. En tout cas, vous avez quelques températures que je vous propose maintenant. 2 degrés à Strasbourg, température minimale bien sûr, 3 à Bourges et Nancy. Et Nancy, 4 à Paris, 6 à Brest, 7 à Toulouse et 8 à Marseille. Température maximale, 9 à Lille, 10 à Metz, 11 degrés à Paris cet après-midi, 13 à Strasbourg, 14 à Nantes, 15 à Nevers, 17 à Nice, 19 à Toulouse et 20 degrés à Marseille. Que dire de ces températures? Eh bien qu'elles sont froides sur la moitié nord, qu'elles sont encore très douces sur la moitié sud, et c'est tout à fait logique car l'air nous vient du pôle et cette air va envahir le pays dans le courant de la journée et dans le courant de la nuit prochaine. De sorte que demain, tout le monde aura froid et pour l'instant, eh bien, tout le monde pas, non, mais tout le monde pas froid.
Ça va venir.
Moi, je t'ai dit tout le monde pas froid. Sur la moitié nord notamment, nous aurons même quelques petites chute de pluie, d'abord sur le Pas-de-Calais, le Nord, et ensuite elles vont descendre probablement fin de journée sur la région parisienne, la Champagne, les Ardennes, la Lorraine et l'Alsace. Donc des petites pluies qui ne seront pas bien méchantes, et compte tenu des températures, dans le courant de la nuit prochaine, elles pourraient donner quelques flocons.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Christophe Lamarre, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes sur Europe 1, un nouveau journal, il est presque 7h30.
La totalité du montant de l'activité allait nous être prélevée. Donc ça représente plus de 100 euros par mois à régler là sur avril, mai, juin.
Payer pour des cours qui n'ont pas été donnés à Paris, la mauvaise surprise pour des parents d'élèves dont les enfants ont été privés d'activité en raison du Covid, la ville vient de leur envoyer la facture. La France approche les 100 000 morts du Covid. Une enquête de l'INSEE révèle que les immigrés sont particulièrement exposés et frappés par la maladie. La suite d'une affaire tentaculaire en Corse, la justice enquête autour de la bande dite du Petit Bar, un établissement au cœur d'une gigantesque machine à blanchir l'argent sale. Et puis Laurent Cabrol vous prévient depuis ce matin, les températures vont fraîchir, normal, nous sommes en avril, mais les producteurs de fruits s'inquiètent.
Juste après ce journal, on se plonge dans le chamanisme et dans ce qu'il apporte à la recherche moderne sur le cerveau. C'est passionnant, tête à tête avec l'ethnomusicienne Corinne Sombrin. C'est dans 10 minutes. L'édito politique, Mickaël Darmon.
Il y a 6 ans, Emmanuel Macron a lancé En Marche sa conquête vers l'Elysée. Aujourd'hui, les marcheurs ont-ils encore sous le pied ?
Nicolas Canteloup ensuite, qui conseille à sa manière l'invité de Sonia Mabrouk ce matin, la violoniste Zhang Zhang, membre de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'annonce du confinement n'a pas fait plaisir à tout le monde, c'est une évidence, mais ça n'a pas arrangé certains parents d'élèves. Et pour ceux qui avaient inscrit leur enfant à une activité périscolaire, on peut même parler de double peine.
Oui, parce qu'il s'agit de payer pour des cours qui n'ont pas été donnés. On imagine la mauvaise surprise des parents lorsqu'ils ont ouvert l'enveloppe et découvert la facture. À Paris, par exemple, les cours de piano ou encore de danse n'ont pas eu lieu, ou alors pas longtemps, Covid oblige bien sûr. On pourrait imaginer que la note s'en serait trouvée allégée. Eh bien pas du tout, Carole Ferry. Les parents des petits parisiens vont devoir payer pour l'ensemble de l'année.
Exactement, c'est le cas de cette maman. Elle avait inscrit sa fille Marion à un cours de danse au centre d'animation de son quartier à la rentrée. Les prélèvements prévus à l'automne n'ont pas eu lieu. Et il y a quelques jours, surprise, elle reçoit un courrier de la mairie de Paris.
Nous indiquant que la totalité du montant de l'activité allait nous être prélevée. Donc ça représente plus de 100 euros par mois à régler là sur avril, mai, juin. Nous demander de régler en si peu de temps la totalité de la somme, ça c'est exagéré.
D'autant que les personnes qui assurent ces activités sont actuellement en chômage partiel, payées donc par l'État. Mais selon la mairie de Paris, c'est une question d'équité par rapport aux personnes qui ont réglé en une seule fois au début de l'année. Alors nous nous sommes posé la question de savoir comment ça se passait ailleurs. Eh bien, le directeur général des 11 centres d'animation de Bordeaux, Jean-Luc Benguigui, a trouvé lui une autre solution pour ceux qui avaient déjà payé toute l'année.
Nous avons trouvé que le bon sens était de permettre aux personnes d'être remboursées. Alors certains ont eu des avoirs parce que ce sont des habitués, je dirais. Mais de toute façon, si nous sommes incapables de proposer l'activité, bien sûr que nous ne sommes pas posé la question et que le bon sens voulait que nous les remboursions.
Dans d'autres villes comme Marseille, Lille ou Lyon, où il n'y a pas de système équivalent, ces activités sont déléguées à des associations qui soit ont choisi de rembourser, soit ont proposé des avoirs.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1.
La crise sanitaire est une situation qui reste très tendue dans les hôpitaux.
5341 malades du Covid en réanimation, 185 décès supplémentaires enregistrés hier. Le pays approche lentement mais sûrement la barre des 100 000 morts et l'on s'en doutait, la maladie ne frappe ni ne tue de la même manière. L'INSEE publie d'ailleurs une étude sur la mortalité qui frappe les populations d'origine immigrée. Sur la seule période de mars-avril 2020, eh bien le nombre de décès a augmenté de près de 50%, Laura Taouchanoff.
Oui, en Île-de-France et dans le Grand Est, deux fois plus de décès dans les communautés asiatiques et maghrébines. La raison, eh bien, ce sont deux régions touchées de plein fouet par la première vague, avec en plus une forte précarité chez les immigrés, comme le souligne Valérie Roux. C'est la chef du département de la démographie à l'INSEE.
Ces populations vivent plus nombreux dans des logements plus petits, ce qui peut favoriser la transmission du virus et travaillent un peu plus souvent que les personnes nées en France dans les secteurs clés qui, en mars-avril 2020, ont continué à travailler.
Et alors que les comorbidités sont plus fréquentes chez les personnes nées à l'étranger, leur accès aux soins diminue face à la surcharge de travail des soignants. Patrick Simon est chercheur à l'INED, c'est l'Institut d'études démographiques.
Le fait qu'il n'y ait pas effectivement de traduction, ou en tout cas plus difficilement des traductions, parce que quand même elles existent, hein, rend la communication plus difficile et ça peut amener soit des personnes à ne pas y aller, soit à ne pas pouvoir communiquer dans de bonnes conditions avec le service, mais avec le personnel médical.
Une surmortalité encore plus frappante chez les hommes. Si on prend les immigrés africains, par exemple, les décès augmentent de 131% contre 88% pour les femmes.
Laura Taouchanoff.
En Grande-Bretagne, le gouvernement britannique dévoile aujourd'hui son propre projet de passeport sanitaire post-Covid.
Oui, il permettra de savoir si son porteur a été vacciné, s'il est négatif ou au coronavirus, ou encore s'il n'est plus contagieux. Ce certificat sera notamment testé lors de la demi-finale et la finale de la Coupe d'Angleterre de football.
possible.
7h34 sur Europe 1. En Corse, la justice poursuit son enquête tentaculaire autour de la bande dite du Petit Bar.
Oui, c'est le nom de cet établissement soupçonné d'être au cœur d'activités mafieuses. Mercredi dernier, une dizaine de personnes, dont une figure du banditisme, ont été interpellées, placées en garde à vue. Ils pourraient être mis en examen comme une dizaine d'autres protagonistes dans le volet financier de cette affaire. Car au-delà des soupçons d'activités criminelles, la bande du Petit Bar aurait aussi blanchi des dizaines de millions d'euros, Guillaume Bier.
Oui, une cinquantaine de millions d'euros blanchis, c'est l'estimation des enquêteurs et des juges. Des sommes colossales, au départ en liquide, qui transiteraient ensuite sur des comptes à l'autre bout du monde, avant d'être réinvestis notamment dans l'immobilier. Tout cela est apparu en marge de l'enquête sur la tentative d'assassinat de Guy Orsoni. Mais grâce à des micros placés chez les suspects, les enquêteurs ont entendu les conversations et le bruit quasi quotidien des machines à compter les billets. Alors d'où vient cette fortune ? S'agit-il d'extorsion, de trafic de drogue ? C'est ce que la justice tente d'éclaircir. Pas simple, dans un dossier où il y a eu des fuites. La veille du premier coup de filet, les principaux suspects ont été prévenus. Ils ont eu le temps de faire le ménage, comme on dit, et pour certains de s'enfuir. Trois d'entre eux sont d'ailleurs toujours recherchés. Grosse tension en Corse, la police judiciaire s'est vue retirer le dossier. Plusieurs policiers ont été mutés, une enquête est en cours. Les juges, eux, ont transmis toute l'affaire du Petit Bar aux gendarmes qui tentent de boucler l'un des plus gros dossiers judiciaires de ces 20 dernières années sur l'île de Beauté.
Guillaume Bier, chef du service police-justice d'Europe 1.
On y a cru la semaine dernière, mais il faut revenir à la réalité ce matin. L'été est encore loin, il va même faire froid, très froid cette semaine. Un coup dur pour les producteurs de fruits.
Oui, on devrait même avoir des températures négatives demain, de la neige en altitude, des gelées le matin, c'est normal, nous sommes en avril après tout. Le problème, c'est qu'effectivement, il a fait très chaud la semaine dernière et avec cette fin d'hiver très douce, eh bien, les arbres fruitiers ont commencé à fleurir. Ce retour du gel inquiète la présidente de la Fédération des producteurs de fruits dans le Tarn-et-Garonne, Françoise Roque.
Normalement, début avril, on commence à peine la floraison, par exemple, sur pommes. On se retrouve au mois de mars-avril avec un stade pour l'arbre fruitier qui est très, très sensible au gel. La pêche est petit fruit, l'abricot est petit fruit, la cerise en pleine fleur, ce qui fait très peur. Vers minuit, 1h du matin, ils annoncent déjà zéro. Et nos systèmes de protection ne sont pas conçus pour tenir comme ça 8 heures d'affilée contre le gel. Il y a le risque de tout perdre si on descend à moins 2, de déformer les fruits. Et ils sont invendables. Comme la prévision, elle est sur toute la France, on est très inquiets.
Françoise Roque, présidente de la Fédération des producteurs de fruits et légumes dans le Tarn-et-Garonne. Elle était avec Laura Taouchanoff. Et puis un mot de football. Marseille revient dans la course aux places européennes après sa victoire 2-0 hier sur Dijon. L'OM est 6e de la Ligue 1 ce matin.
Merci beaucoup Christophe Lamar. C'était le journal de 7h30 à 8h tout à l'heure. On retrouve François Geffrier pour une nouvelle édition. 7h37.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Un peu de délicatesse ce matin. Un peu de musique pour réveiller les courageux du lundi de Pâques au matin. 8h15, un entretien entre Sonia Mabrouk et la violoniste renommée Zhang Zhang. Née en Chine, aujourd'hui membre de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo. Elle parle en français dans cette interview. C'est juste après le journal de 8h. Ce sera passionnant. Tout de suite, voyage en Mongolie, tout autre chose, à la rencontre de la transe chamanique avec une ethnomusicienne formée comme les chamans, qui fait rencontrer finalement la tradition et nos mesures scientifiques modernes. La transe comme état de conscience modifié, comme l'hypnose, et qui guérirait ou accompagnerait certains de nos maux. L'ethnomusicienne Corinne Sombrin dans une minute.
Europe Matin, le 7-9.
7h40 sur Europe 1. L'ethnomusicienne Corinne Sombrin a découvert la transe chamanique en Mongolie. La transe des chamans, oui. Et elle l'a étudiée et raconte cette rencontre entre la tradition et la science. Parce qu'aujourd'hui, elle maîtrise cette transe. Elle se met en transe. Elle l'enseigne. Elle renseigne surtout la science sur le cerveau humain. Son expérience a inspiré un film, Un monde plus grand, avec Cécile de France. Et elle revient aujourd'hui avec La diagonale de la joie, chez Albin Michel. Écoutez bien, Corinne Sombrin, écrivaine, spécialiste de la transe chamanique. Elle est mon invitée.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Corinne Sombrin.
Bonjour Mathieu Béliard.
Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Alors pour éclaircir quelques points de base déjà, c'est quoi un chaman ?
Ah oui, bonne question. Alors un chaman dans la tradition mongole par exemple, c'est un lien entre le monde des humains et le monde des esprits. D'abord, on consulte l'invisible et donc ce qu'ils appellent les esprits avant de prendre une décision. Donc c'est le rôle du chaman.
Ensuite, c'est quoi la transe ? On parle d'état modifié de conscience, c'est la même expression que pour l'hypnose, c'est similaire ?
Alors, c'est l'étude qu'on est en train de mener au CHU de Liège, et pour mesurer justement les similitudes et les différences entre l'hypnose, la méditation et la transe qu'on appelle cognitive auto-induite.
Alors, Corinne Sombrin, on va reprendre quelques éléments de votre histoire pour nos auditeurs. Au début des années 2000, vous êtes en Mongolie dans le cadre de votre travail d'ethnomusicienne et vous assistez à une séance de transe chamanique.
Je dois faire un reportage pour la BBC et j'assiste à une transe. Voilà. Donc le chaman entre en transe pour aller interroger ce monde des esprits dont on a parlé, au son d'un gros tambour qui fait à peu près un mètre de diamètre. Voilà. Donc le chaman commence à jouer du tambour et ça fait un effet auquel je ne m'attendais pas du tout. C'est-à-dire que je me vois en train de sauter, bouger. Et puis surtout, il y a des sons qui sortent de ma gorge qui sont des hurlements de loup. Hein. Donc, en sortant de cet épisode, on va dire, le chaman discute avec l'ami qui m'a accompagné en Mongolie et lui demande pourquoi tu m'as pas dit qu'elle était chamane. Voilà. Il y en a un sur 100 000 à peu près, hein, pour qui ça arrive en Mongolie. Bah, c'est que j'avais été désignée par les esprits, j'avais reçu ce qu'ils appellent l'étincelle chamanique, ouais. Et que je devais être formée par eux pendant quelques années.
Alors, attention, hein, il ne s'agit pas de cours du soir pendant 3 semaines. Hein.
Non, ça devait durer 3 ans. 3 ans à la frontière de la Sibérie, bien sûr, j'étais pas du tout enthousiaste. J'ai dit ben non, ça a été ma première réaction. Et donc voilà, alors j'ai pu y aller de façon alternée, parce qu'il m'a permis d'y aller de façon alternée plusieurs fois par, une fois par an pendant plusieurs années. Ça a duré 8 ans. Voilà, pendant lesquels j'ai pu vivre des trans, essayer de comprendre ce que c'était et vivre à quel point la trans était un état intéressant dans la mesure où j'avais plus de force, je ne ressentais quasiment pas la douleur. Oui. Et je vivais un phénomène dissociatif, c'est-à-dire que tout d'un coup, je me voyais en train de faire des choses que je n'avais pas décidé de faire. Et pour l'Occident, arriver à démontrer quelque chose, on passe par la science.
Alors, on va plonger dans la science, hein. Mais pour bien comprendre, vous avez ensuite montré que c'était possible de déclencher cette transe vous-même, comme ça ?
Exactement. Non seulement on a démontré par les recherches qu'on a menées ensuite, à partir de 2007, que la transe est un phénomène cognitif, c'est un accès possible pour chacun de nous. Et donc ce serait un potentiel qui est plutôt en sommeil, qu'on sollicite peu. Ouais. Et après on a démontré donc qu'il était possible de l'induire par la seule volonté.
Alors la science, allons-y. Dans le journal du dimanche, il y a quelques semaines, à votre sujet, on lisait « Longtemps, on l'a envoyé consulter un psy. Aujourd'hui, c'est elle qui forme les spécialistes de santé mentale. » C'est-à-dire qu'au début, les spécialistes ici, on a dû vous recevoir avec un œil un petit peu méfiant, Corinne.
Ah mais complètement. Le premier médecin que j'ai vu, je lui ai parlé de mon histoire, donc c'est le début du livre, hein, et donc cette consultation où à la fin de l'entretien, il me donne une carte et il me dit « c'est un psychiatre ».
Je fais un petit saut dans le temps. Vous êtes là aujourd'hui pour nous en parler, donc pas dans un hôpital psychiatrique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a découvert sur votre cerveau quand enfin on a démarré des recherches ?
Alors les premières, c'était à Edmonton au Canada, dans un hôpital psychiatrique, j'ai pas échappé.
Vous passez de la transe chamanique, de la tradition, faut bien comprendre, du tambour, aux électrodes sur la tête, hein, au laboratoire. On a changé d'ambiance quand même.
Ah oui, complètement. Complètement. D'abord, quand j'ai fait une démonstration devant ces neuropsychiatres, psychiatres de l'hôpital de Edmonton, j'arrivais à maîtriser l'auto-induction de la transe. J'avais plus besoin de tambour, plus rien. Et donc, quand ils ont vu ça, ils ont tout de suite comparé ça à des pathologies qu'ils connaissaient, hein, qui étaient la schizophrénie, syndrome de personnalité multiple, dédoublement de personnalité violent. Enfin voilà. Et schizophrénie, manie, dépression, quand même, les trois à la fois. Donc, le professeur Florent Ry, qui dirigeait ses études, a eu très très peur. Il m'a dit que j'avais un cerveau sain. Il a quand même confirmé, hein, que mon cerveau était sain dans un état de conscience ordinaire, mais quand j'étais en transe, lui, il voyait ça comme un état psychopathologique et il disait c'est une psycho généralisée cette histoire-là. Parce que si je le compare à mes groupes contrôles pathogènes, il y a toutes les pathologies à la fois.
Alors je le reprécise pour nos auditeurs, Corinne Sombrin, vous avez un cerveau qui est parfaitement sain, mais vous êtes capable de vous mettre en mode schizophrène pathologique à la demande.
Il leur a fallu 10 ans pour reconnaître que ce n'était pas du tout un état psychopathologique. C'est en fait un état du cerveau qu'on ne connaissait pas et qui était non seulement un état dissociatif, certes, mais non pathologique, mais probablement un des futurs outils que la psychiatrie pourrait utiliser dans la palette de ressources auxquelles elle pourrait se référer.
Sur la transe, aujourd'hui, vous dites, Corinne Sombrin, qu'on peut tous le faire, tous se mettre en transe, c'est facile ?
On se met à volonté en transe comme on peut induire une méditation, on peut induire une transe. On a formé plein de gens qui sont capables, comme moi, d'auto-induire une transe et de vivre une transe.
Mais je vous coupe, Corinne Sombrin, à quoi est-ce que ça peut bien nous servir ?
eh bien, on s'en sert beaucoup plus qu'on ne pense. C'est une stratégie de survie qui est proposée de toute façon par le cerveau dans les états d'urgence. Où des gens vous disent bah, « tout s'est ralenti autour de moi, j'ai réussi à soulever cette voiture, je ne sais pas comment j'ai fait ». L'état de conscience ordinaire est trop lent pour réagir à une situation d'urgence.
Alors, dans quel cas de figure est-ce qu'on pourrait l'utiliser ? Je repensais au travail de la violoncelliste Claire Aupert. Elle joue de la musique pour atténuer la douleur des malades. Est-ce qu'avec vous, Corinne, on est dans quelque chose de similaire ?
Il y a des processus de réparation personnelle qui se mettent en route. On va commencer une étude clinique en oncologie et voir si la pratique de la transe améliore au moins déjà leur qualité de vie. Et on a aussi commencé un protocole sur la douleur chronique parce qu'on s'est rendu compte au travers de quelques tests pilotes que la perception de la douleur avec la pratique de la transe, elle s'apaisait petit à petit. Voilà, donc on ne sait pas pourquoi, mais c'est ce qu'on cherche.
Aujourd'hui, quand vous vous présentez dans un laboratoire ou dans une université, on ne vous prend plus pour une folle ?
Ah non, plus du tout. Alors ça fait plaisir. Hein. C'est une sacrée revanche. Et puis surtout, par exemple, quand on forme les psychiatres à la transe et où ils se mettent à faire, c'est arrivé déjà à faire la mouche, à avoir l'impression qu'ils sont une mouche. Et voilà, ça nous fait beaucoup. On rit tous ensemble. Hein, on rit tous ensemble parce qu'ils comprennent. Le fait de vivre des trans a permis d'agrandir leur palette d'interprétation des symptômes.
Aujourd'hui, vous dites chaman.
Ah mais non, mais moi je m'en fiche de ça. Hein. Vous savez très bien que ça m'énerve quand on me dit ça. C'est comme si on disait en fait, parce qu'on sait réciter une prière, on est curé. Vous voyez ? Et en fait, la transe est un phénomène cognitif qui était là bien avant que les chamans l'utilisent.
Alors quand on parle d'hypnose, il y a l'hypnose thérapeutique et l'hypnose spectacle. Et on nous demande de bien les dissocier. Vous aussi, c'est spectaculaire quelque part, Corinne Sombrin. Vous êtes capable, là, dans un studio de radio, le matin, de vous mettre en transe aussi simplement ?
Absolument, absolument. Mais tous les transeurs que j'ai formés, ils sont tous capables d'induire la transe comme ça.
Mais vous, vraiment, comme ça ?
Mais oui, mais tous, hein.
Vous voulez que je le fasse, si vous voulez. Alors déjà, est-ce que ça se fait de demander ça ?
Mais bien sûr, ça se fait. Donc vous voulez vraiment que je me mette en transe, là ?
Chiche.
Mais ça va faire des sons forts, en fait, ça, je sais pas.
On a de bons micros.
Bon, d'accord. Oui, comme moi, je me dois.
Tout le long, vous êtes avec moi, là ?
Bien sûr.
Et ailleurs en même temps ?
Et ailleurs en même temps. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que les deux intelligences...
Corinne, pardonnez-moi, je vous coupe, mais vous avez changé de voix après. Ça vous fatigue ? Non, pas du tout ?
Non, pas du tout. Mais ça fait changer la tessiture de la
d'accord,
voix.
D'accord.
Voilà, et puis on se met à faire des sons, des gestes, des trucs comme ça qu'on a jamais fait et qui sont parfois très, très impressionnants de complexité. Mais on produit des fréquences, en fait. On produit des fréquences. Et ces fréquences ont un sens, probablement, sur notre état.
On retrouve dans vos descriptions des effets des drogues de synthèse ou de substances hallucinogènes.
C'est un projet de recherche qu'on a aussi, c'est de voir qu'on est capable soi-même de produire les mêmes neurotransmetteurs que lorsqu'on prend du LSD ou de la MDMA. Je vais faire une intervention à UPenn, à l'université de Pennsylvanie, avec une psychologue, avec Nadine Krisberger, avec qui on travaille, parce qu'ils sont au courant de nos travaux, et ça les intéresse de voir que sans rien, on peut aussi avoir les mêmes effets.
Mais alors si sans rien, on peut avoir les mêmes effets, moi j'extrapole, on peut imaginer traiter la toxicomanie, la transe, c'est un subutex ?
Bien sûr, sauf que ça demande un effort au départ. Ça demande un effort. On n'a pas le shoot qui va nous emmener directement dans l'état de transe. Oui. Au début, hein, ça prend à peu près 2 mois pour arriver à accéder à l'état. Donc, c'est pas pour les feignasses.
Oui, non, mais vous avez mis 9 ans. On peut peut-être accepter 2 mois de travail. Merci, Corinne Sombrin.
Ouais, merci à vous, Mathieu.
Merci beaucoup. La Diagonale de la Joie, c'est chez Albin Michel. Lisez et puis formez-vous à la transe. À bientôt.
Pas trop.
Pourquoi ?
parce qu'on ne fait pas beaucoup de stages et qu'on n'a pas beaucoup de place. Mais ça viendra. Il faut déjà former les formateurs et puis après ça viendra.
Patience alors. Merci mille fois.
Europe 1, Mathieu Béliard.
7h51. On va changer de ton, hein, avec Mickaël Darmon dans un tout petit instant pour l'édito politique. Vous restez bien sur Europe 1. Très bon réveil. 7h53 sur Europe 1. L'édito politique avec Mickaël Darmon ce matin. Bonjour Mickaël.
Bonjour, bonjour à tous.
Chef du service politique d'Europe 1. Alors il y a 5 ans, pratiquement jour pour jour, Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, lançait à Amiens son parti En Marche et en même temps sa conquête éclair vers l'Elysée. Demain soir, un événement. Bon, en visio, avec les têtes d'affiche du macronisme pour prendre date avant une transformation de la majorité présidentielle pour 2022. Une question pour le camp du président. Comment Emmanuel Macron peut-il encore surprendre ?
Alors, en ces jours de Pâques, chez les macronistes, on ne va pas jusqu'à parler de résurrection, mais plutôt de renaissance. C'est le nom de l'association créée afin de servir de plateforme au programme de la présidence française de l'Union européenne, que la France, il faut le savoir, prendra le 1er janvier 2022. Et sauf coup de théâtre, quelques semaines plus tard, Emmanuel Macron devrait se déclarer candidat à sa succession. Et là, voilà la première surprise de la campagne présidentielle. Ce bouquet final du « en même temps ». Le président sera à la fois sur toutes les tribunes européennes et en même temps sur les planches de l'élection nationale. Chez les macronistes, on parie que c'est un avantage pour être réélu. On y voit même un aboutissement. Rendez-vous compte, le candidat le plus européen de 2017 sera à la tête de l'Union européenne en 2022. Donc chez les marcheurs, on affirme qu'on en a encore sous le pied et qu'il n'y a pas à avoir honte de cette épopée politique au pouvoir.
Mais Emmanuel Macron sait que la formation présidentielle n'a pas réussi son implantation dans les territoires. Marlène Schiappa, hier, le reconnaissait encore au grand rendez-vous. Qui peut l'aider pour 2022 ? Édouard Philippe, qui se dit disponible tout en étant libre ?
Alors, vous savez, on va dire les choses comme elles sont. Un responsable de la Macronie confiait encore hier, hein, je cite, « Les interviews d'Édouard Philippe pour la promotion de son livre confirment une chose, on a bien fait de ne pas le garder. Vous pouvez enfiler tous les éléments de langage que vous voulez. Il y a une réalité, Emmanuel Macron et Édouard Philippe ne pouvaient plus travailler ensemble au sommet de l'État. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a souhaité s'en séparer. Alors pour 2022, Emmanuel Macron compte sur une refonte de sa majorité. En fait, la vocation de La République En Marche est bien plutôt de mourir de sa belle mort et d'être remplacé par une nouvelle galaxie qui le soutiendra sans ambiguïté, avec quelques tentatives d'ailleurs de prise de guerre. Pour l'instant, Emmanuel Macron, lui, il s'occupe de la crise sanitaire et ne s'intéresse pas à la campagne présidentielle qui approche, du moins oui. Officiellement. Oui. Vous connaissez le principe, hein. Y penser tout le temps, en parler jamais. Mais dans la salle des machines, c'est une autre histoire. Tous les soutiens de la Macronie sont mobilisés. Ils cherchent la formule magique avec une consigne, faire la preuve que la victoire éclair de 2017 n'est pas une parenthèse dans l'histoire de la Ve République.
Merci Mickaël Darmon, chef du service politique d'Europe 1, votre édito politique. Et comme tous les matins, Nicolas Canteloup conseille à sa manière l'invité de Sonia Mabrouk. À 8h15, notez-le bien, Sonia Mabrouk reçoit en exclusivité l'immense violoniste Zhang Zhang, membre de l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo. Et tiens, c'est Jean-Pierre Elkabbach qui est venu lui dire un mot.
Ouais, salut Mathieu. Salut à Mickaël Darmon. Mickaël Darmon, le grand dévoué qui permet à Bétou d'aller en week-end. Oui, et le dévoué, ou le couillonnet, je sais pas. Couillonnet de garde, il est de garde. Allez, c'est magique, Jean-Pierre, oui, tu m'as reconnu, le Michael Jordan de l'interview. Je connais par cœur ce moment de la saison pour les grands interviewers. C'est le coup de mou, la petite fringale. Elle en a eu ras la casquette des politiques, la Sonia Mabrouk. Elle a craqué. C'est pour ça qu'elle interview la violoniste Dan Zhang. Ça sent le départ sur Radio Classique. Il y a Jean-Pierre Raffarin, l'homme politique français qui connaît le mieux la Chine et ses artistes. Jean-Pierre, intervenez. Bonjour, monsieur Darmon. Monsieur Darmon, grand bosseur, monsieur Darmon. Il travaille même le lundi de Pâques. Monsieur Béliard, vous aussi. Oui, j'adore la violoniste Zhang Zhang. Zhang Zhang, c'est mon artiste préféré, Zhang Zhang. Avec également, je dois le dire, Miu Miu et Duran Duran. Je plaisante. C'est une. Oui. Non. Écoutez, c'est une immense artiste, Zhang Zhang, immense violoniste, qui va dire beaucoup de bien du régime chinois, j'en suis certain, car elle aime jouer du violon, mais elle n'aime pas se retrouver au violon. Voilà. Oui, pardonnez-moi, excusez-moi d'intervenir un lundi de Pâques, hein, c'est Didier Deschamps. Elle aime la Chine, oui, enfin, elle joue quand même. À l'AS philharmonique de Monaco, hein, pas celui de Pékin. Hein. Ça prouve que tout de même, elle est lucide.
C'est signé Nicolas Canteloup, qui conseille à sa manière quel florilège ce matin à l'invité de la matinale. Vous l'avez noté à 8h15, vous ne la connaissiez peut-être pas, Zhang Zhang, cette violoniste de renommée internationale. Elle n'est plus en Chine, elle est sino-canadienne et Elle est au Philharmonique de Monte-Carlo. Écoutez l'interview, elle n'a pas sa langue dans sa poche non plus. C'est à 8h15 sur Europe 1 et à 8h45, la revue de presque de Nicolas Canteloup.
Europe Matin, le 7-9.